Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Aujourd'hui, on va parler de politique, de sexe, de législation et d'Internet. C'est parti dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, Internet et gadgets toutes les semaines. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette émission avec mes co-animateurs de talent et de charme. Je commence à me répéter, il faudrait que je trouve d'autres adjectifs, d'autres qualificatifs, d'expérience, de beauté, on va dire ça comme ça. Le premier d'entre eux, c'est Jérôme Kainborg qui nous vient depuis son tout nouveau setup post-inondation. Qui est donc alors, oui, en version bêta, c'est ça ?
C'est le nouveau ancien setup, mais qui est sorti de l'eau. Voilà.
D'accord. Et donc,
je suis tel la Vénus. on va voir.
On va voir. Très bien, on teste. Un autre qui teste plein de trucs, comme par exemple, sur, si vous regardez en vidéo, son fond incroyable de véritable hacker du dark web, Corben, bonjour. Comment vas-tu ?
Bonjour. Ça va un peu transpirant là, parce que je sors de ma petite séance de sport, mais je vais sécher pendant ton émission, donc c'est cool.
Très bien, très bien. Écoute, c'est à ça que ça sert aussi. Cédric est là également avec un décor d'une qualité tout aussi incroyable. Comment vas-tu, Cédric ?
Je suis à l'école. Ça va très bien. C'est la rentrée, moi, pour les étudiants. Donc, du coup, il y a pas mal de monde. J'ai réussi à me libérer, mais c'est sport. J'avoue, les journées sont trop courtes, en fait.
Et tu trouves quand même du temps pour venir parler avec tes amis.
Mais oui. Pour vous, je serai toujours là.
Bon, je vais faire un petit peu des réglages son en cours d'émission parce qu'il y a des volumes un petit peu disparates. Donc, si ça change, ne vous inquiétez pas. En attendant, je vais remercier Ubik, Adrien Cognier, Yannick, Florian Bourquin, Geek Mickey, James Le, Bruno Correa et les producteurs de cet épisode, SSI78 et Peter Rigal. Merci à vous tous de participer au Patreon du Rendez-vous Tech qui fait que cette émission peut exister. Un petit bonjour spécial à Mathias qui m'a envoyé un petit mot d'Alaska et qui a, en fait, c'est un Parisien qui est allé acheter une auberge en Alaska du jour au lendemain. Il est allé s'expatrier. Il y avait même un petit passage sur lui dans un 60 minutes. J'ai regardé ça, ça m'a rappelé, ça m'a évoqué beaucoup de choses. La neige, les élans, tout ça, c'était très sympa. Un petit bonjour aussi à Xorus, qui écoute depuis... Et alors, il fait partie de ces gens qui écoutent depuis qu'il était au lycée. Et maintenant, il est adulte, il a un vrai travail, tout ça. Donc, un grand merci.
Il est grand-père, dire si l'émission dure depuis longtemps.
Écoute, techniquement, ça fait 15 ans, on va dire que non. Enfin, techniquement, c'est possible. Elle est non, ouais. c'est pas possible. Mais bientôt, dans 5 ans, ça sera, tu vois, quand on fêtera les 20 ans, il pourrait y avoir des gens qui sont devenus grands-pères depuis le début de l'émission. C'est fou.
C'est probable.
Un message aussi de remerciement à tous ceux qui ont mis des reviews sur iTunes suite à mon appel, enfin à ma remarque de la dernière fois. Donc merci à vous tous, ça fait chaud au cœur. Et Florian qui dit, après des années, écoutez, je me suis enfin dit, bon en fait c'est dans mon budget et je n'aurai plus de traumatisme quand je pose mes clés dans le bol. Merci énormément pour tes podcasts de qualité. Je dis pas que l'histoire des clés dans le bol, c'est pour vous créer des traumatismes. Mais ça fait pas de mal, on va dire. Bon, bref, continuons avec les sujets de l'émission. Ah si, un truc à vous rappeler, enfin à vous dire, c'est le retour des IRL de rentrée, au moins pour cette année. On va en faire une IRL, une rencontre pour de vrai à Paris le samedi 21 octobre. Tenez, sortez vos calepins, vos agendas. Le samedi 21 octobre à 16h, on se retrouve au bar comme... au bon vieux temps du monde d'avant, au Corcoran du Sacré-Cœur, le 21 octobre à 16h. Il y a les détails sur le Discord si vous les voulez, mais réservez déjà votre samedi 21 octobre à 16h. Normalement, je serai à Paris. Et on se retrouve tous pour un petit apéro, ça va être sympathique. Samedi 21 octobre, 16h.
S'il n'y a pas le retour du Covid.
Oui, alors, bon, ne soyons pas...
Ah, ça y est.
Disons que si c'est minime, on vient masquer, mais non, je pense que ça ira, j'espère. Puis sinon, sinon on se fera un apéro virtuel sur Zoom, tu vois, on s'adapte. Mais, mais il faudra qu'on soit tous quand même à Paris au moins pour qu'on ait le sentiment de proximité, tu vois. Donc, réservez les trains, commencez à vous entraîner pour venir en vélo. Si vous avez été un petit peu loin, il faut s'entraîner un petit peu quand même. Mais, un petit patriote en plus, Manu le Papa Malin. C'est qui Manu le Papa Malin ? Merci beaucoup pour ton soutien qui a été affiché en direct. Merci beaucoup et on se lance.
Waouh, Patrick découvre les subs en direct.
Mais tu sais que c'est un système qui est connecté entre Patreon et Zapier et l'affichage sur Twitch avec un truc. Enfin, c'est un système de fou et je suis hyper content de l'avoir mis en place parce que c'est des subs, c'est pas des subs Twitch, c'est des subs Patreon.
Oui, oui, c'est. J'ai les alertes Patreon, mais ça marche pas toujours. Mais, mais globalement, écoute, ça marche.
Que je te file le système qu'a mis en place mon
incroyable... Tu files à Guillaume, c'est lui qui s'occupe de tout ça maintenant.
Ouais, ça y est, toi, tu t'en occupes. Ouais. Parlons de sexe, de crime, de législation et d'Internet. Alors, il y a plusieurs sujets que j'ai réunis dans un gros sujet principal qui sont un petit peu une mise en lumière du fait que parfois, il faut faire des choses et il faut faire des choix, même quand il y a des arguments pour et contre sur des sujets quand même assez sérieux. Et il y a plusieurs choses qui sont passées cette dernière semaine qui montrent que les choix ne sont pas faciles. Le premier, et la première news dont je voudrais vous parler, c'est que l'Australie, qui voulait mettre en place une vérification de l'âge pour la consultation de sites pornographiques, donc voilà, tout de suite, on évacue la partie sexe, fait machine arrière. Après avoir consulté des experts en vie privée et en sécurité, ils ont décidé que le jeu n'en valait pas la chandelle et ils décident de se consacrer plutôt à l'éducation des parents avec des budgets qui ont été débloqués pour ce but. Et ils se concentrent en particulier sur, bien sûr, l'éducation sexuelle, sur le reach out, pour atteindre des personnes LGBTQ, etc., etc. Et on parle de personnes LGBTQ parce que souvent, l'éducation sexuelle est moins disponible pour ce type de sexualité et donc ils se tournent plus vers la pornographie pour apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Donc ils vont essayer d'investir des dizaines de milliers de dollars canadiens sur plusieurs années pour créer de la communication respectueuse, appropriée pour l'âge, etc., sur ces sujets. On ne doute pas qu'il y aura des préoccupations aussi avec cette approche parce que les sites de pornographie sont clairement un problème encore et le fait que les jeunes y accèdent sont clairement un problème encore, mais ils ont fait ce choix parce que les risques d'essayer de déterminer l'âge pour l'accès au site étaient trop grands. Un autre sujet qui est plus ou moins connexe dans les conséquences, c'est Apple. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a un an peut-être, Apple avait annoncé vouloir commencer à scanner les photos sur iCloud pour détecter du contenu pédopornographique. Évidemment, c'est un but louable, mais de nombreuses voix s'étaient élevées pour dire que ce type de technologie mis en place, une fois mis en place, il pouvait être détourné. C'est-à-dire qu'une fois que la technologie était mise en place pour scanner, pour trouver des photos pédopornographiques, des images pédopornographiques qui sont référencées dans des bases de données spécialisées sur ces sujets pour pouvoir les retrouver, ce type de technologie pouvait être utilisé pour d'autres choses et donc était un problème, un danger pour la vie privée. Donc Apple a fait marche arrière. Ils ont décidé de mettre d'autres choses en place, mais plus le fait de scanner les comptes iCloud en ligne et plutôt d'avoir du scanning sur les appareils eux-mêmes avec des avertissements et des avertissements aux parents, aux tuteurs sur les comptes iCloud de famille s'ils trouvaient du contenu qui pouvait, différents types d'avertissements. Bref, ils ont pris une autre approche. Et il y a une association au moins qui a dénoncé cette décision Et qui dit, c'est une association, une initiative qui s'appelle, enfin une association qui s'appelle Heat Initiative, qui a lancé une campagne publicitaire pour dire que Apple devrait mettre en place ce système et que, alors là, évidemment, enfin, on est dans des problèmes encore plus sérieux que la question de la pornographie. Et que, du coup, ils mettent en danger, et ils, c'est pas qu'ils contribuent, mais enfin, ils n'aident pas à combattre les problèmes d'abus sexuels envers des enfants, ce qui est quand même un argument qu'il est difficile de complètement ignorer. Mais là encore, c'est un choix qu'a fait Apple après des consultations. Vous vous souvenez qu'il y avait eu une levée de boucliers quand ils avaient annoncé cette mise en place de système de scanning. Mmh. Donc, sur ces deux sujets, on est un petit peu sur les mêmes mécaniques. Dans les deux cas, on a des instances, enfin Apple et le gouvernement australien, qui ont fait le choix de la prudence par rapport aux problèmes de sécurité. Je ne sais pas s'il y a un bon choix. Moi, je serais plutôt d'avis que les deux ont fait peut-être le bon choix, mais ce n'est pas du 100%, il n'y a aucune raison de faire l'autre. C'est un petit peu plus nuancé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement?
Pour Apple, le choix du bon choix.
Pour Apple et pour l'Australie. Hein, dans les deux cas, c'est
moi, je pense que l'Australie a fait le bon choix, ouais, parce qu'après, que ce soit pour la vie privée, puis pour tous les problèmes, les problématiques liées à la vie privée, ouais, je pense que c'est le bon choix. Mais après, on sait bien que l'éducation, etc., ça va pas suffire. Enfin, c'est pas ça qui va empêcher les enfants d'accéder au site, quoi. Donc pour moi c'est un problème insoluble, ce truc, quoi. On ne peut pas non plus infantiliser tout le monde, enfin tu vois.
Un problème insoluble, et donc faut choisir la moins pire des solutions, je crois. Mais l'éducation. Vas-y, Jérôme.
Même si c'est quelque chose, on est dans un monde où tout doit être archi manichéen. T'es avec moi, t'es contre moi. T'es pédophile, t'es pas pédophile. T'es terroriste, t'es pas terroriste. En fait, ce que je veux dire, c'est que on s'aperçoit justement avec ces hésitations, ces consultations et ces décisions que des problèmes qui peuvent paraître simples à l'énoncer, les enfants ne doivent pas regarder la pornographie, donc il faut leur bloquer les sites. En fait, c'est des problèmes complexes avec beaucoup de fils qui sont attachés à ça et qu'il faut faire très attention à pas créer un remède qui est pire que le mal. Le mal existe, les gens mauvais existent. Mais il faut faire attention, des solutions à l'emporte-pièce qui peuvent satisfaire dans un tweet ou un X par la simplicité de la méthode peuvent derrière engendrer des phénomènes. Et on l'a vu depuis qu'Internet existe, des trucs qui paraissaient des bonnes idées au départ et simples, en fait, c'est détourné très rapidement, de manière insidieuse, et ça enfonce parfois le mal au plus profond des choses, le rendant encore plus indélogeable. Donc, moi, je suis 100% pour la prudence, même si le problème est grave et qu'il faut l'aborder. Les solutions à l'emporte-pièce, ça plaît sur les réseaux à ton électorat, mais dans les résultats, ça crée des catastrophes sociales, quoi.
Voilà. Je suis d'accord.
Je trouve que c'est assez courageux de la part du gouvernement australien. Qui, effectivement, pour des raisons politiques un petit peu faciles, aurait pu dire « Ah là, nous combattons la pornographie, les enfants sont… » Et c'est avéré, hein, les enfants sont plus en contact avec des contenus pornographiques qui sont dangereux pour leur vision de la chose sexuelle. Et donc, il faudrait faire quelque chose. Et c'est courageux pour eux de dire « Ouais, alors finalement, on change d'avis et on va faire quelque chose ». Mais c'est un truc qui est plus sur le long terme avec l'éducation, etc. Pardon, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, l'Angleterre aussi essaie de limiter ça depuis plus d'un an. Il y avait des effets d'annonce, etc.
Ah ben en France aussi, on a aujourd'hui l'obligation de vérification d'âge, normalement.
Le vrai souci, c'est en fait, il y a deux problèmes. L'Australie, en fait, fait marche arrière pour des raisons, justement, de non-sécurité, finalement, de la vie privée des gens. En fait, on peut facilement les identifier, etc. Puisque forcément, t'es obligé d'expliquer que t'as l'âge que tu as, en fait. Et donc, fournir soit des pièces d'identité, soit peu importe. Il y a France ID, la grande idée de la France, de dire on va avoir un ID anonyme, mais qui certifiera que vous êtes bien majeur, etc. Bon, OK, pourquoi pas. En fait, il faut voir un truc, c'est que La pornographie, c'est pas que les sites pornographiques. Et c'est pour ça qu'en fait, le problème est impossible à résoudre. C'est qu'aujourd'hui, sur Discord, la pornographie s'échange, en fait. Les gamins qui, en plus, merci le confinement, leur ont fait découvrir aussi Discord, etc. Même des enseignants qui utilisent Discord. C'est hyper facile de rejoindre un serveur Discord sur lequel il n'y a pas de vérification d'âge. En plus, tu sais pas avec qui tu discutes. Donc, en plus, ça rejoint même le sujet de la pédophilie. Mais au-delà de ça, en fait... Discord, en fait, et je jette pas la pierre à Discord parce que c'est un excellent outil et je le trouve génial.
Non, tout peut être détourné.
Mais en fait, la modération est transférée au responsable du serveur, en fait. Donc, ça veut dire que typiquement, on peut demain monter un serveur, diffuser de la pornographie, attirer des adolescents dessus et pourquoi pas des prédateurs sexuels se faisant passer pour des adolescents viennent alors que les adolescents sont en plus en recherche justement d'expériences sexuelles, etc. Enfin, je veux dire, t'as le meilleur des deux mondes, en fait, pour eux. Donc, des gens qui cherchent ce type de contenu, des gens qui veulent abuser d'enfants, etc. Donc, dans l'idée, je suis même pas sûr que le sujet du site pornographique... En fait, l'accès à la pornographie est ultra simple aujourd'hui, en fait. Smartphone dans une chambre... un ordinateur, une tablette, peu importe.
Oui, bien sûr.
C'est l'accès. C'est la porte d'accès, en fait, à tout Internet, avec ce qu'il a de bien et ce qu'il a de mal.
Ah, disons
le contrôle parental, c'est bien, mais ça ne suffit pas non plus, en fait. Et je pense que le choix de l'éducation, peut-être qu'en fait, si l'éducation sexuelle n'était pas si prude, parce qu'en fait, enfin, je sais pas si nous, boomers, rappelons-nous de l'éducation sexuelle au collège.
C'était inexistant. C'était de l'éducation sexuelle. Il n'y avait pas de sensibilisation à la nature de la pornographie, en fait.
D'ailleurs,
tu vois.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. C'était de la reproduction et pas.
Voilà. Ouais. Parce qu'en fait, on n'y parlait pas de plaisir, on n'y parlait pas de tout ce qu'on veut. En fait, ce qui entoure le sexe de manière générale. Et donc, fatalement, en fait, c'était extrêmement biologique. C'était les profs de SVT souvent qui faisaient ça. Il n'y avait pas de... Voilà. Franchement, nous tous, notre éducation sexuelle a été faite avec Doc et Difool, quoi. Enfin, j'exagère, mais c'était presque ça, en fait.
Non, mais il y a un peu
c'est-à-dire
de ça,
que, voilà, ce n'est pas sale. Mais il y a vraiment le...
Mais tu sais, on rigole aujourd'hui, avec cette idée de ce n'est pas sale que le Doc répétait
non, mais bien sûr.
Ad vitam.
Bien sûr.
Mais, ouais.
Mais en fait, voilà, là, le vrai problème, je pense que tout l'argent qui va être dépensé pour essayer de créer un système qui, de toute façon, ne fonctionnera pas, il vaudrait mieux le déplacer vers, justement, l'éducation sexuelle. Ça serait tellement plus intéressant.
Enfin, je crois que...
Je ne dis pas qu'il faut, il faut des cours là-dessus. Alors, évidemment, il y a des levées de boucliers énormes.
Non, mais
parce qu'il y a
truc,
les religions aussi, il y a tout un tas de choses, etc. Mais je pense qu'il y a un minimum à
je crois qu'il y a un point, avant de te redonner la parole, Jérôme, c'est qu'il ne faut pas non plus trop simplifier... ce qui vient en fait d'un changement de société profond et majeur qui est venu de l'accès facilité à la pornographie. Et effectivement, ça ne fait pas si longtemps que ça que c'est devenu aussi prévalent. Et du coup, il faut le temps que la société s'y adapte. Et je dirais que les cours de sensibilisation et d'explication de la pornographie n'étaient peut-être pas nécessaires. Il y a même, enfin, pas autant nécessaires il y a 5 ou 10 ans. Tu vois, donc je ne veux pas non plus trop jeter la pierre aux gens dont c'est le travail de faire attention à ce genre de choses, etc. C'est que ce n'est pas si simple que ça de tout à coup se dire « Bon, bah alors, ok, j'ai identifié... » C'est ce qu'on disait sur les questions des DSA, DMA. « J'ai identifié le problème, je sais comment ça marche, je sais comment il faut résoudre, je sais machin. » Ça prend du temps et c'est normal. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas peut-être non plus essayer de bloquer l'accès à certains sites. Mais comme tu le dis très bien, peut passer par Discord ou par des trucs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut
bien sûr. Mais tu sais, la vraie problématique aussi, c'est que typiquement, on est coincé entre deux choses. C'est-à-dire qu'il y a une loi qui interdit de montrer de la pornographie à des mineurs, ce qui est logique. On imaginerait mal un prof de SVT déchiffrer une scène de porno devant des gamins de 14 ans. Mais typiquement, les manuels, on n'y voyait aucune pénétration, on n'y voyait rien, en fait. Donc, je veux dire, il n'y avait que des vues en coupe, des vues extrêmement biologiques.
Alors ça, j'aimerais pas être la personne qui va être en charge de...
Voilà, mais moi non plus. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on a le droit de montrer? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de montrer? Le sujet, en fait, est extrêmement complexe. Et je rejoins Jérôme sur un point. Dire, non, il faut pas que les mineurs voient de la pornographie. Ouais, ok, merci, c'est cool, t'enfonces des portes ouvertes. Mais en fait, comment est-ce qu'on met ça en place, en fait? Et le problème est extrêmement plus complexe que juste, il faut interdire l'accès au site. c'est débile, ouais, en fait.
On nous dit aussi avec justesse dans la chatroom que c'est aussi un problème. Enfin, quand je dis sensibilisation à la pornographie, c'est sensibilisation à la différence entre ce qu'on voit dans les images pornographiques généralement,
exactement,
et la réalité des relations sexuelles. Et on parle du coup de respect, de consentement, de toutes ces choses-là qui sont hyper importantes.
Bah,
Jérôme, je te laisse conclure.
C'est là où Cédric a raison. Bien sûr que l'éducation, c'est toujours plus complexe. En fait, c'est comme si tu dis, je vais résoudre le problème de l'immigration en mettant des murs, et les gens vont plus venir.
Il y en a
ça,
qui
c'est
ont
une solution. Oui, oui, non, mais c'est pas par hasard que je choisis ouais. l'exemple. C'est une solution qui paraît bien à tout le monde intellectuellement quand tu veux pas trop réfléchir, et surtout, ça te décharge du problème. Mmh. On va mettre un mur, donc c'est pas mon problème. On va faire un mur. Bah, le fait de dire on va interdire l'accès au site aux mineurs, c'est aussi une façon de nous dédouaner du problème. Il y aura des murs qui vont empêcher les mineurs de faire des conneries, mais l'éducation qui est, et je parle pas que des parents, je parle de nous en tant que société, l'éducation, c'est notre rôle à tous. Parce que l'éducation, c'est la culture. La culture par rapport au sexe, par rapport au genre. Aujourd'hui, il y a des grandes mutations, accélérées aussi par le fait qu'on communique beaucoup plus qu'avant, et d'une certaine façon, de manière plus libre, il est grand temps qu'en tant que civilisation, on prenne nos responsabilités et qu'on change des points de vue civilisationnels, moraux. Et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Alors, c'est sûr, c'est beaucoup moins populaire que de mettre des... Enfin, c'est beaucoup moins simple que de mettre des murs en croyant que ça va empêcher les gamins de passer, quoi.
Je ne veux pas non plus qu'on condamne trop facilement l'idée d'une interdiction d'accès au site. Parce que c'est facile de dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Tu te rends bien compte que... ils croient que ça va être une solution. » C'est peut-être une solution qui est difficile à mettre en place, peut-être même impossible, et qui est certainement pas suffisante. Mais je comprends que, tu vois, on dit « Bon, bah, les magazines pornographiques ou soft porn ou érotiques, bah, on les vend pas dans un kiosque aux enfants, tu vois, de moins d'un certain âge. » Ça veut pas dire qu'ils vont pas réussir à s'en procurer. Ça veut pas dire qu'ils allument pas Canal Plus à minuit avec la passoire devant le truc, tu vois, pour... ça veut pas non plus dire qu'il y a pas quelque part une certaine légitimité à l'intention de dire « Bon, bah, comment on peut rendre l'accès plus difficile là où on le peut et puis explorer, voir si c'est possible ou pas. » Mais continuons avec d'autres sujets.
Ouais.
Vas-y, Jérôme.
Pardon. Non, je disais juste, aujourd'hui, bah, déjà, un gamin qui accède à un site porno, normalement, il voit un panneau, c'est pas fait pour toi. Donc, quelque part, s'il est pas trop con, le gamin, il sait qu'il fait quelque chose d'interdit. On n'empêchera jamais un gamin de passer. Mais au moins, déjà, de lui dire, bah, en théorie, t'as rien à foutre là, quoi.
Mais regarde, vois, les circulations, quand ils sont rouges, quand les gens les grillent, ils savent qu'ils font un truc de mal.
Non, mais j'avais vu une conférence TED géniale où il disait, dans les pays du Sud, le feu rouge est une possibilité, pas une interdiction.
C'est ça.
Je peux te dire que j'ai connu ça dans certains pays aussi. Mais de la même manière, dans la même philosophie, une interdiction, c'est pas parce qu'elle va être bravée qu'elle est inutile. Et donc, il y a quelque chose de... un autre sujet que je voulais évoquer. Alors, on a un petit peu passé à l'as la question d'Apple. On s'est concentré sur la pornographie, mais c'est sans doute... il y avait beaucoup de choses à dire. Un autre sujet, je mettrai dans la newsletter, d'ailleurs, l'article qui parle des explications d'Apple sur pourquoi ils ne veulent pas mettre en place ce scanning de contenu pédopornographique. Mais vous vous souvenez qu'on parle depuis des semaines du blocage de Meta, du blocage que Meta va faire au Canada du contenu de la presse suite à une loi qui est passée qui les obligerait à rémunérer les sites de presse. Et il y a une étude intéressante qui a été faite par SimilarWeb, un cabinet d'études, sur le trafic, la fréquentation de Facebook depuis que ce blocage a été mis en place. Et figurez-vous qu'il n'y a absolument aucun changement sur la fréquentation de Facebook au Canada. Alors, ça peut paraître évident pour certains, mais c'est une expérimentation empirique sérieuse qui montre que, en fait, le contenu en question, dont les groupes de presse disaient « Vous faites de l'argent sur notre contenu et c'est aussi grâce à nous que votre site peut exister », eh ben, ça ne se retrouve pas dans les faits. Et quand Facebook disait, vous savez, les informations, les sites, enfin, les articles de sites de presse, on vous envoie du trafic, mais pour nous, ça représente peanuts dans notre utilisation à nous. Eh ben, cette étude qui est indépendante, qui est faite par un cabinet indépendant, semblerait montrer que... Alors, on voit sur, allez, 2-3 semaines pendant l'été, que le trafic, au moment où le bloc a été mis en place, il ne change pas, mais du tout. C'est même pas 2%, 5%, 10%, rien. Rien, rien. Mmh. Moi, je ne m'attendais pas à autant, quand même. Mais bon, là, ça semble...
À autant de rien. Tu t'attendais pas à autant de rien, en fait.
Je ne m'attendais pas à autant de rien, quand même. Enfin, tu vois les courbes. Et bon, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pff, ah, ça change rien, quoi. Du coup...
Moi, je n'étais pas au courant de cette histoire, mais du coup, ça ne m'étonne pas, en fait, que ça ne bouge pas. Il y avait eu le même problème avec Google, les sites référencés et tout ça. Hein.
Ouais.
Tout à fait. Chose,
hein, ouais, mais en fait, c'est toujours la même problématique qui revient. C'est marrant parce qu'en fait, ce truc-là, ça pourrait être un marronnier de la tech, quoi. Bah, c'est-à-dire que quel est le prochain pays qui, maintenant, va demander... Les éditeurs vont demander d'être payés par Google ou Meta. Ou voilà.
Il semblerait qu'ils sont de négocier en Malaisie. Allez,
rendez-vous le mois prochain.
Ouais, c'est ça.
Rendez-vous le mois prochain avec la Malaisie. Mais c'est le truc qui revient régulièrement.
Mmh. Maintenant, non, la nouvelle info, pas. Là, c'est qu'ils l'ont effectivement mis en place. Et on a une étude qui montre que ça a eu zéro impact. C'est ça qui est la nouvelle info.
Ouais, mais parce qu'en fait, je pense que les gens se contentent de l'encart partagé avec le titre et la photo et ils lisent pas l'article.
Non, mais justement, il n'y a plus. C'est plus possible. Mais même sans, ça, ce qui se passe au Canada. Et donc, je crois plutôt que les gens se contentent de ce que Facebook leur propose.
Les gens n'ont rien à foutre des infos, quoi.
Oui, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que... Justement, pour expliquer ce non-changement, c'est que jusqu'à présent, il y avait juste cet encart et les gens ne cliquaient pas. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que tu enlèves l'encart, mais vu que les gens ne cliquaient pas,
ça change rien. Ça envoie du trafic hein, quand même au site web.
Ouais, mais pas beaucoup, franchement. C'est ridicule.
Peut-être aussi que les gens sont allés directement sur le site plutôt que de passer les sites de news, les sites de...
Après,
ce qui serait intéressant, c'est de voir comment le trafic, la fréquentation des sites d'information, des sites de presse canadiens ont changé, ont évolué. Peut-être que ça sera un prochain article.
Parce que Facebook, c'est pas fait pour lire de l'actu, grosso modo. Quoi. Tu suis des groupes ou tu suis tes amis. Mais
ça dépend. Quoi, Facebook, c'est Internet pour certaines personnes. Hein. Vraiment.
Ah, oui. Ouais, je sais, mais bon, c'est pas la même... Enfin, je sais pas, moi, c'est pas un truc que j'utilise pas pour aller lire Le Monde, tu vois.
Mais toi, Corben, t'es un hacker.
Ouais, non, mais je vois pas les gens le faire non plus. Les gens réagissent beaucoup sous les posts des articles de presse, surtout quand ça fait un peu polémique et tout. Mais et puis je suis sûr que je sais pas en fait ce qui a été bloqué, est-ce que c'est les pages des médias, est-ce que c'est vraiment les médias officiels, parce que si
alors
moi,
tous
demain,
les liens vers poste... d'après ce que je comprends c'est tous les liens vers les sites de presse, tu vois, tu peux plus en poster parce que selon la nouvelle loi là, comment elle s'appelle, CB 28 C 18, et ben Facebook et Meta et les autres seraient obligés de rémunérer les sites de presse quand ils utilisent un lien, quand ils affichent un lien avec l'encart, etc. Sur leur service, sur leur réseau. Et donc, ils ont dit, bon, bah, dans ce cas-là, on n'affiche rien. J'imagine que quand tu essayes d'inclure un lien, Facebook te dit, désolé, on ne peut pas inclure de lien vers ce site.
Ouais, peut-être, ouais. Mais bon, après, il y a toujours des miroirs, il y a toujours des trucs. À mon avis, l'actu, elle passe quand même, quoi.
Ça montre aussi qu'on est à l'épicentre d'une mutation profonde de qu'est-ce que l'info, qu'est-ce que la presse. Aujourd'hui, les gens vont plus s'attacher à écouter une personne qu'un média.
Oui.
Ça, c'est des mutations même de business model. Moi, ce que j'en retire pour être souvent en contact quand même avec des journalistes dans un monde qui change, etc., ou des gens de grands sites web qui sont sous une bannière, c'est que parfois, ils ont du mal à comprendre à quel point le monde a changé. C'est pas tant la confiance envers le journalisme, mais c'est plus la confiance envers la notion de groupe de presse. C'était quelque chose d'extrêmement puissant dans le monde d'avant. Le groupe de presse, c'est lui qui amenait la confiance, l'argent, on s'abonnait à un groupe de presse, à un journal, à une tétière. Et même les journalistes étaient un peu effacés. Moi, mais peut-être naïvement, je pense qu'on est en train de basculer dans un monde où on va faire confiance à des personnes, à des journalistes, peut-être un peu freelance, pas forcément parce qu'ils bossent au Monde ou à tel truc. Et les réseaux sociaux permettent ça en plus. Moi, je suis de plus en plus des gens qui j'ai confiance pour l'info.
Complètement. Non, mais je suis 100% avec toi. Moi, il y a des gens sur Twitter ou sur YouTube vers lesquels je vais aujourd'hui pour comprendre un sujet. Je partage souvent, par exemple, des vidéos de Sabine Hasenfelder, qui est une chercheuse en physique quantique, mais qui fait des recherches maintenant avec sa chaîne YouTube sur différents sujets. Et je me dis, il y aura d'ailleurs une de ses dernières vidéos dans la newsletter où elle parle de capitalisme. Donc, vous verrez, elle est particulièrement
bien. Capitalisme quantique.
C'est ça.
T'es riche ou t'es pas riche?
Ouvre la boîte. Non, mais t'es les deux en même temps jusqu'à ce que tu regardes dans ton portefeuille.
C'est les deux en même temps. T'es un pauvre riche.
et tu dis, bon, si je veux comprendre un sujet complexe, ça va être pas la source, mais l'une des sources vers lesquelles je me tourne, parce qu'il y en a des milliers de sources, et l'une des sources vers lesquelles je me tourne en me disant, cette personne, je sais qu'elle a une méthode de recherche à laquelle je fais plus ou moins confiance, et oui, c'est une personne plutôt qu'une publication, et ça nous amène à un autre sujet que je voulais traiter dans cette partie, qui est une étude de la Commission européenne qui dit que les réseaux sociaux n'ont pas endigué la propagande et la désinformation pro-russe en 2022 et 2023. Et au contraire, le nombre de sites et surtout de comptes sur les réseaux sociaux a augmenté et leur portée a augmenté aussi. Alors, on pense évidemment à X, à Twitter, qui a fait marche arrière dans ce domaine, mais ce n'est pas que ça concerne. Et à côté de ça, il y a une annonce de Twitter également qui dit que, là où c'est possible, ils vont réinstaurer les publicités politiques qui avaient été interdites il y a quelques temps suite à la présidence de Donald Trump, ils vont les réinstaurer avec un centre de transparence dont ils disent qu'ils vont permettre de savoir d'où vient quoi, etc. Mais donc, c'est un petit peu préoccupant. Alors, ça nous concerne moins parce que en Europe, en France en tout cas, la publicité politique est interdite, mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et effectivement, cette problématique de désinformation pro-russe à grande échelle n'a pas été... On pourrait se dire, c'est bon, maintenant on a commencé à comprendre comment ça fonctionne, on peut se battre. Eh bien, d'après cette dernière étude, ça a augmenté en 2022 et 2023 récemment. Ça n'a pas du tout été verrouillé. Donc, quand on parle de sources d'information et de à qui on fait confiance, c'est à double tranchant presque, parce que s'il y a un propagandiste, parce qu'il y en a des échos dans tous les pays, auquel on se met à faire confiance... Eh bien, on va se dire, oui, mais moi, je sais à qui je fais confiance. Eh bien, voilà, c'est cette personne qui est issue.
Oui, ou un journaliste qui a vrillé. Hein, le Tucker Carlson sur X, par exemple.
Alors, lui, il est parti encore plus loin qu'il n'était, mais il n'a jamais été parti.
Il a complètement vrillé. Il s'était fait virer de CNN, d'ailleurs, pour un peu négation justement de ce qui s'est passé le 6 janvier,
Fox
etc.
C'était Fox News.
Fox News, pour que
Fox News vire quelqu'un,
vraiment, le gars, il est complètement été le plan. Mais aujourd'hui, il a une tribu, il est suivi par 10 millions de personnes, il gagne beaucoup d'argent grâce à X, Elon Musk est hyper content d'avoir ce contenu produit. D'ailleurs, je vois des gens qui étaient hyper réservés sur la production de contenu sur X, qui maintenant sont emballés et disent finalement c'est une super plateforme, parce qu'il y avait un épisode que tu avais fait, Patrick, du Rendez-vous Tech, parce que je les écoute tous, où vous parliez justement de est-ce que X va devenir une plateforme de destination et pas uniquement une plateforme de promotion des contenus que l'on produit. Et en fait, la donne est vraiment en train de changer. C'est-à-dire qu'on voit sur la production de vidéos... Surtout, en plus, le ROI, pour le moment, est hyper intéressant. Quand tu as une communauté, tu peux gagner beaucoup d'argent, etc. Ils ont mis pas mal d'outils en place. Ils sont encore en train d'en mettre. Et à l'époque, on en rigolait. Mais d'ailleurs, je crois que c'était avec Marion, l'épisode de mémoire. À l'époque, on en rigolait, entre guillemets, un peu, en se disant « ça restera une plateforme de promotion, il y a peu de chances que c'est bien de tenter, mais il y a peu de chances que ça arrive. » Et en fait, ils sont en train de réussir et ils ont vraiment retourné des gens. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Matt Eleven le dit dans le chat, il dit « Je commence à écouter des podcasts sur X. »
C'est-à-dire que carrément.
Ils soit on passe de réussir là où on n'y croyait pas nous-mêmes, en fait.
Moi, j'ai toujours pensé que c'était possible, hein, mais...
Ouais, non, mais c'est possible, mais dans un futur peut-être lointain. C'est
Elon Musk a appliqué une règle très simple. L'argent gagnera toujours sur la morale ou le,
bah,
ou le truc. Je veux dire, les créateurs de contenu, parce que bah, c'est un business, y a un moment, si on te dit tu peux gagner... Regarde, nous, dans le petit monde du streaming, alors ça n'a pas duré longtemps, c'était peut-être qu'un surbrosseau, mais quand il y a eu les affaires de Kick versus Twitch... Kick, ouais. Bah t'arrives, tu dis ah, je gagne 10 fois plus, il faudrait être fou pour rester sur l'ancienne plateforme. Et quelque part tu ne peux que les comprendre quand c'est ton gagne-pain. Voilà, après il est très difficile dans n'importe quel secteur de résister à l'attrait de l'argent. Ça veut pas dire que t'es obsédé par l'argent, mais ça veut dire voilà, le confort, investir, etc.
Donc il y a plein surtout de nouveaux créateurs de contenu qui débarquent sur X, qui avant faisaient rien et qui du coup se servent de la plateforme. Alors évidemment, il y a beaucoup de contenus complotistes, extrême droite, etc. Surtout aux États-Unis. Mais en fait, après il se pose une vraie question morale, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis prêt à produire du contenu sur une plateforme où finalement ces contenus avec lesquels je ne suis pas d'accord sont pas censurés, etc. Enfin, se pose plein d'autres questions.
On va venir à ce sujet justement.
Mais typiquement, typiquement, on voit des producteurs de contenu, j'allais dire mainstream, classique, commencer à sauter le pas en fait.
Ouais. Moi, je me demande juste pour conclure ce que je voulais dire, c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'on en passe par là pour que ça éclate vraiment parce qu'aujourd'hui, voilà, il y en a, c'est la surenchère. Le seul truc qui marche, c'est l'indignation. Voilà, c'est le moteur du monde sur X.
C'est sur ça que surfent
les compromis. C'est à celui qui dira le truc le plus énorme. En fait, Trump a ouvert la voie et maintenant certains s'engouffrent dedans et c'est la surenchère. La surenchère, il y a un moment où on va atteindre un point de fusion. Ça va exploser. Il va y avoir un gros problème, je pense. Il va se passer quelque chose de très grave.
Le 6 janvier.
Je pensais que l'attaque du Capitole était le point de fusion. Manifestement, non.
Aux États-Unis, quand même, il y a un trauma. Chez nous, moins.
Mais il y a un trauma, mais enfin, c'est vachement remis en cause déjà maintenant. Je pense qu'il va falloir qu'il arrive quelque chose presque de plus grave. Hélas, l'histoire nous montre que parfois, il faut un drame énorme pour qu'il y ait un vrai changement. Sur un problème comme ça. Alors, j'essaye de rester optimiste, mais j'essaye.
Moi, je pense pas qu'il y aura de changement. C'est plus ça va aller comme ça dans la merde des négatifs, ça va bourrer le crâne des gens, ça va se faire en douceur et ça va continuer.
Ouais, bon, écoutez, on pourrait repartir sur cette, sur cette question. Je vais juste mentionner deux derniers sujets qui ont à voir avec ça aussi. D'abord, rapidement, pour parler encore de X un tout petit instant, Elon Musk a... comment dire on sait que X a des, Twitter a d'énormes problèmes, y compris des soucis de revenus qui ont été divisés de moitié, enfin qui sont tombés à 60% de ce qu'ils étaient, d'après ce qu'on comprend. Il a commencé à accuser l'ADL. C'est quoi l'ADL ? C'est l'Anti-Defamation League, qui est une association de lutte contre l'antisémitisme et le racisme aux États-Unis. Et il a commencé à accuser l'ADL d'être responsable de ses déboires parce qu'il serait allé convaincre les annonceurs de ne plus faire de la pub sur X, ignorant un petit peu tous les problèmes dont on parle depuis des mois et des mois de ce qu'il a fait sur Twitter, comme par exemple le fait de réinstaurer les comptes de néo-nazis, de suprémacistes blancs, de limiter la modération de ce genre de comptes, le fait de virer la moitié ou plus de la moitié de la boîte et que la boîte fonctionne plus difficilement, etc., etc. Donc on est dans une sorte de paroxysme de l'absurde où le type qui a une plateforme qui est de plus en plus antisémite, clairement, enfin je veux dire c'est objectivement, il y a beaucoup de choses dont on peut débattre dans la vie, il y en a peu où on se dit, bon bah là, enfin genre les nazis quand même, là il n'y a pas trop de débat quoi, on arrive aux limites de la question des questions dont on peut débattre, et littéralement il a réinstauré des comptes de néo-nazis de suprémaciste blanc, enfin ce genre de choses, et il va aller dire tous mes problèmes sur ma plateforme, en fait c'est quand même à cause des juifs. Bon, soyons honnêtes. Donc, bon, voilà, je voulais le mentionner parce que c'est juste pour le... Il est en train de... Bon, mais l'autre chose que je voulais mentionner, c'est...
À deux doigts de nous sortir, hein, s'ils n'existaient pas, on n'aurait pas de problème, quoi, tu vois. C'est... Vraiment, ah, il est à deux doigts de nous sortir.
Je la connais pas, cette
réponse. On a eu de la chance qu'ils mettent un X à la place du logo.
Ouais,
hein, pas
ouais,
un autre
ça.
Symbole.
Tu sais, on pourrait rajouter quelques traits et c'est vite fait.
Ouais, voilà, c'est ça.
L'autre, enfin bon, je veux dire, je sais pas la conviction profonde que Elon Musk est un néo-nazi. Mais enfin, là, on a quand même une sorte de d'antisémitisme sur lequel il s'aligne, qui est, enfin bon, bref.
Le plus terrifiant, c'est son pragmatisme. C'est qu'il sait qu'en adoptant cette voie-là, beaucoup de gens vont suivre.
Ah bah bien sûr, bien sûr.
Et il le fait ça, pour une le raison. C'est terrifiant dans l'histoire. C'est pas Elon Musk qui me fait peur. C'est de voir qu'il est en train de réussir avec certaines personnes, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens pour suivre ce genre de choses.
Bah ça, y a
c'est
eu
ça
aucun
le
doute.
Plus terrifiant.
Il n'y a aucun doute ouais. là-dessus. On n'a qu'à voir l'ex-président des États-Unis, quoi. Ce qui a mené à au 6 janvier que beaucoup... J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est grave ce qui s'est passé. La raison pour laquelle, peut-être que des gens ne le savent pas, je vais le mentionner, et peut-être que ça expliquera aux gens autant pourquoi j'en parle autant et pourquoi je suis aussi catastrophé. La seule raison pour laquelle on n'a pas eu une crise, un coup d'État aux États-Unis, c'est que Mike Pence a dit non à Trump. Ça va pas plus loin que ça.
Non, c'est le traître.
C'est passé
c'est,
à bah, ça.
Hein. C'est le traître. Mais on est vraiment, et moi je m'en rendais pas compte à l'époque, mais aujourd'hui on sait avec les enquêtes, Mike Pence a dit non, je n'invaliderai pas les résultats de l'élection. Par respect, parce que, alors, on a pu avoir beaucoup de désaccords avec Mike Pence, et Dieu sait que j'en ai. Mais donc, tout ça pour dire, pour en revenir à la tech, on est dans cette mouvance-là, et c'est ça que Elon Musk enables, comment on peut dire ça, facilite. C'est cette mouvance politique-là, et ça s'aligne avec...
C'est un catalyseur de tout ça.
Ouais. Bon. De toute façon, on la sent l'onde de choc dans la tech, dans la politique, c'est qu'aujourd'hui, bah, on le voit même en Afrique en ce moment, une élection ne veut plus rien dire.
Disons qu'il y a eu des... C'est pas la première fois où une élection ne veut plus rien dire en Afrique, mais...
Non, mais aujourd'hui, un homme politique peut légitimement dire « je suis pas d'accord avec le résultat de l'élection ». Et on l'écoute et il est suivi. Ce qui est extrêmement dangereux, parce que c'est le principe de base. Mais moi, il y a un mème qui m'a beaucoup fait rire hier, et je trouve que ça montre que, à partir du moment où on est dans une société où tout peut être remis en cause par un groupe de gens vocal, en fait, il n'y a plus rien. Tu vois un prof de maths qui explique le théorème de Pythagore, et il y a un de ses élèves, qui dit « oui, non, mais ça, c'est des maths mainstream, j'y crois pas ». Voilà, ouais, on en est là, aujourd'hui.
C'est
voilà.
Quoi, t'es un expert attends, quels sont
ouais, les... Ouais, t'es un expert, t'as écouté qui
Moi, j'ai vu
Pythagore,
sur
ouais, non, mais c'est ça, voilà. Tout
Pythagore,
peut être remis en cause.
Puis t'as ton cul, machin, tout ça.
Voilà.
Ouais. À côté de ça, un dernier sujet que je voulais évoquer, c'est la mésaventure de... Et là, on voit que ça revient... Enfin bon, qu'il y a des limites à tout... la mésaventure de Anis Ayari, dont je vous parlais la semaine dernière, qui a développé donc une sorte de marionnette Twitch en IA qui fait parler, enfin c'est une sorte de bot avec images, avec vidéo et son, qui fait parler Emmanuel Macron, le général de Gaulle, etc., et qui répond aux questions en direct sur Twitch. Bon, à un moment, quelqu'un lui a demandé, sur Twitch, a demandé au robot Macron, dis-nous les noms des quels sont les pires villages de France, et il a donné les noms de différents villages en disant des trucs du genre, enfin des trucs très sérieux.
Attention, ouais, est-ce que
ouais,
tu
alors
dis,
je vais pas le dire,
c'est quand même sur Twitch, ouais.
Mais exactement, comme on est sur Twitch, je peux pas dire le nom de ce village qui a un nom qui pourrait être interprété de manière antisémite, alors que c'est pas comme ça qu'à la base était nommé. Et en plus, le pire, c'est que en disant le nom de ce village, l'IA a dit c'est un village dont le nom, je ne sais plus comment il l'a formulé exactement, mais il dit un truc du genre dont le nom a un écho historique tragique, mais il n'a pas été imaginé comme ça, un truc du genre quoi. Enfin bref, il ne sait même pas qu'il se moque du truc et il dit c'est l'un des noms des pires villages de France. Et suite à ça, le compte de Anis s'est fait bannir définitivement sur Twitch parce qu'il a simplement dit le nom de ce village, ce qui est... Alors, on va pas... Il n'y a pas à débattre, c'est évidemment une sorte de je sais pas, d'erreur, d'abus de modération, possiblement automatique, qui a été validée par quelqu'un qui a vu, ah bon, bah, il a dit ça, ok, paf, ban définitif, mais il a construit sa communauté pendant des années, et là, c'est un des rares cas, et je ne veux pas que ça invalide les autres, mais c'est un des rares cas où le potentiomètre va trop loin, quoi, clairement. Ou alors, il faudrait... Moi, je pensais que ça durerait deux jours, et que quelqu'un, un humain, regarderait ce qui s'est passé, regarderait le Twitch, le clip qu'ils ont identifié, et dirait « Ah ben non, c'est une erreur du système, on te réinstaure ton compte. » À ce jour, une semaine après, il n'est toujours pas réinstauré. C'est...
Après, il faut regarder les conditions d'utilisation de Twitch, parce que dans les conditions, par exemple, tu peux pas, enfin, en tout cas, tu pouvais pas, par exemple, filmer juste, créer une chaîne Twitch sur laquelle tu diffusais uniquement une imprimante 3D qui est imprimée, avec rien d'autre comme contenu. Mmh. En fait, à partir du moment où il n'y a pas d'humain, de vrai humain, qui ou parle ou interagit avec le public, etc., en fait, à l'époque, en tout cas, alors peut-être que les conditions ont changé, mais tu n'avais pas le droit. Et du coup, en fait, le fait d'avoir un logiciel qui tourne en permanence, alors avec quelques rares exceptions, mais un logiciel comme ça qui tourne, où les gens parlent, ça génère des choses, etc., je
tu
pense que ça rentrait de toute façon pas dans les...
Peut-être.
Mais je pense alors, que lui, quelqu'un reporte en disant ça ne répond pas au CGU. Quoi.
Alors, peut-être. Alors, ça serait bien qu'il lui donne la réponse hein, pour ça. Un ban dev pour ça, j'ai l'impression que les trucs genre Twitch Plays Pokémon, tu vois, ce genre de trucs automatisés.
Mais ça c'est, oui, mais c'est. Déjà, il y a l'utilisation du mot Twitch dedans, donc il y a une autorisation, ça devient une chaîne officielle, etc. On est sur autre chose, en fait.
Peut-être.
Et ça reste du jeu vidéo, et ouais. etc. Là,
bon, disons que si c'est la raison, effectivement, du ban, ça serait compréhensible. Twitch.fr, je crois, enfin, Twitch France ne s'est pas. Exprimé sur le sujet, bah, d'après ce qu'on comprend,
Patrick,
finalement, c'est ça la cause. Là, non,
je t'interromps. Ce qu'on a bien vu avec l'histoire du joueur du grenier et maintenant de Defend Intelligent, c'est que Twitch France, bisous au passage, mais ils ont zéro pouvoir. C'est Twitch US qui dit oui, qui dit non, qui banne. Tu as beau avoir des amis ou connaître des gens chez Twitch France, c'est pas eux qui iraient te repêcher, quoi. Ça pose déjà un problème de localisation, de compréhension. De toute façon, ça pose quand même un problème vieux comme nos métiers. On exerce des trucs où on gagne notre vie sur des territoires où on peut se prendre un ban def. On a zéro recours, il y a zéro justice, on ne peut même pas se défendre, on a zéro explication. On te montrerait ça dans un film. Tu dirais, mais c'est une dictature, c'est l'Empire, c'est Dark Vador. Et il y a presque une forme d'acceptation des créateurs de contenu, moi je le vois, où ils vont plus se dire, ah, merde, comment on peut faire pour pas que ça arrive, plutôt que de se dire, putain, c'est une injustice, merde.
Mais regarde, tu vois, regarde, pour reprendre tout à l'heure le sujet de la pornographie, si demain un État, et il y a des États, interdit tout simplement la pornographie sur le territoire, alors que jusqu'à présent elle était autorisée, c'est un peu la même chose, c'est sur un terrain entre guillemets inconnu. La nuance, c'est que c'est un État, c'est pas une plateforme privée, du coup tu peux éventuellement avoir des recours, etc., et encore, mais finalement c'est à peu près la même chose. Si demain ils décident d'interdire la production de contenu sur Internet en France, tu perds ton métier, en fait.
Mais c'est la différence entre de la modération et de la censure, quoi.
On est d'accord.
Après,
s'ils considèrent que, je sais pas, il y a un problème d'économie ou autre.
Moi, je suis assez d'accord avec Jérôme, c'est toujours le même problème. C'est pour ça que moi, j'ai bien rigolé quand j'ai vu des gens, à l'époque, fermer leur blog pour aller mettre tout leur contenu sur Facebook quand c'est lancé, tu vois. C'est toujours prendre un risque. En fait, c'est ce qu'on répète depuis le début de l'émission, là. C'est toujours les mêmes problèmes, en fait, qui reviennent en boucle. Et je suis désolé pour Yanis, hein, mais c'est vrai que ça serait bien de connaître la raison. Et voilà, c'est un truc qu'ils ne pouvaient pas forcément anticiper, en plus, c'est dommage. Mais ça me fait dire qu'avec tout ce qui se passe en IA en ce moment et tout ce qu'on automatise en IA, etc., faut être super prudent avec la mode, enfin se surveiller tout ce qui sort parce qu'on n'est pas, on est prêt. De...
Relisez ce que vous écrivez chat GPT.
Ouais, ouais, c'est ça parce que la moindre connerie, enfin moi je m'en fous, tu vois, c'est sur mon blog. Je veux dire, si j'écris le nom de ce village sur mon site, il va rien se passer. Je vais l'enlever et puis c'est tout. Au pire, j'aurai une plainte, mais bon, mon site va pas disparaître. Mais effectivement, si c'est posté sur, je sais pas, Medium, sur Twitter, sur machin, tu peux te faire sauter le compte très très vite, quoi.
Bah du coup, Anis est allé sur Kik, mais je ne sais pas s'il veut y rester ou si... Bon.
Voilà. C'est bien une solution temporaire.
Force à lui.
Le temps 2.
Ouais.
Après, il peut faire du multi-stream. Il stream sur Twitch, Kik, YouTube, Instagram.
Alors, sur Twitch, il ne peut plus, mais sur Kik, sur, sur X, tu vois.
TikTok.
Non, mais après, ce que dit Corben montre quand même une chose, et moi, je le vois en tant que créateur de contenu. Et t'as tout à fait raison. Ça peut paraître une bonne idée, et c'est vrai que les interactions avec l'IA, tu peux créer d'abord du contenu facilement, hein, disons-le. Facilement, pas cher.
Oui, comprendre
les gens
que
regardent,
ça soit la
rigolo,
cause du ban. Ça, je peux comprendre.
Etc. Tu vois, nous, on commençait à réfléchir comment on pourrait inclure de l'IA dans notre émission du matin, avec ces histoires. Je suis là, wow. Ça pose même la. Ça pose même la question du live légèrement différé. Est-ce que Yanis, si, quand la question était posée à son IA,
c'est Anis,
s'il avait mis... s'il avait mis un léger décalage qui lui aurait permis peut-être de couper le truc, ou s'il avait rentré des mots-clés de
ouais,
blocage...
Mais ça peut être considéré comme du spam aussi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une chaîne qui est occupée par un robot. Il n'y a pas d'humain derrière, etc. Enfin, tu vois, il faut regarder les conditions
souvent,
générales, mais...
Il a peut-être laissé tourner 24 heures sur 24.
Son IA quand même.
Mais le problème, il a été hyper prudent avec l'IA. Et encore une fois, ce n'est pas qu'elle s'est mise à déblatérer des discours antisémites. Hein. Elle a mentionné en disant que c'était une histoire tragique le nom d'un village français qui existe en répondant à la question quels sont les noms des pires villages français. Tu vois, donc c'est, on est
les
pas
pires
du tout
noms
dans
des villages français.
Les pires noms de villages français, ouais. Et il a donné ce nom que, encore une fois, moi, je ne veux pas répéter parce que c'est juste le fait de dire le nom du village qui a provoqué le problème, qui est... Du coup, c'est pas l'IA qui est partie complètement qui s'est mis à faire des discours antisémites. Hein, qu'on soit clair.
Ouais, bah il a été victime des bots automatiques et puis de la censure à l'aveugle américaine, quoi.
Ouais.
En gros.
Ouais. Qui offre zéro recours, c'est ça.
C'est
grave
ça
dans le fond de l'histoire. Mmh. C'est surtout ça qui est problématique. Moi, je suis prêt à accepter. Parce que ça arrive de dire un mot qui est une mauvaise compréhension. Je suis même prêt à accepter que voilà, une vidéo ou une chaîne se fasse interdire parce que le bot automatique n'a pas très bien marché. Je comprends la nécessité des bots automatiques de contrôle, mais que derrière, on ait zéro recours, ça, c'est grave. Ça, c'est très grave.
On est d'accord.
Et t'imagines avec la loi qui dit que la nouvelle loi là, en France avec la suppression des contenus en moins de 24 heures, il y a des trucs là qui sont passés récemment là-dessus.
Ah bah les DSA, DMA vont.
Ouais, c'est ça, ça va redurcir encore, redurcir encore. Alors, les algos.
Je me disais qu'on allait peut-être partir dans cette direction, mais je voudrais à choisir entre les deux. Comprenons bien que je préfère qu'on soit sévère, vous voyez. Vu tout ce qu'on vient de dire il y a une dizaine de minutes à peine, je pense que on sera tous d'accord pour dire qu'il faut un marteau puissant pour éviter les excès. Par contre, je crois que le fait de pouvoir faire appel d'une demande et avoir un interlocuteur à qui on peut plaider sa cause est quand même devrait.
C'est le principe même de la justice. Hein.
Oui, c'est ça.
Oui, un monde sans justice, c'est là où tu as zéro défense, quoi. Quelle que soit la gravité de ce que tu fais, tu dois toujours avoir une défense. C'est le principe de la justice, quoi. Et là, il est bafoué. Si c'est le cas que Defend va être complètement ban de Twitch et qu'il a zéro recours, pour moi, il y a un vrai problème de justice.
Si c'est pour... peut-être, oui. Mais oui. Si c'est pour la question du bot, donc du contenu non humain qu'il a été banni, peut-être que ça s'explique parce qu'effectivement, ça, on le sait qu'il ne devrait pas faire ça. Si c'est pour cette raison, ok, mais qu'il le dise. Même pour cette raison, hein, ban dev, c'est sévère, quoi. Bref, voilà pour les gros sujets importants de ce début d'émission et de cette semaine. Un petit rappel tout de même que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com/rdv tech, vous le savez, c'est le moyen, puisque, comme on le disait tout à l'heure, de se libérer la conscience, d'arrêter les traumatismes, parce que vous le savez, quand vous entendez « cling », là, tout de suite, j'envahis votre cerveau, je m'insinue entre vos oreilles et je vous dis « Pensez à Patreon, pensez à Patrick !» Et là, vous dites « Mais c'est impossible, je dois aller sur patreon.com/rdvtech et regarder ce formidable site de financement participatif qui pourrait m'aider à contribuer à l'existence, à la vie du Rendez-vous Tech. patreon.com/rdvtech. » Entre parenthèses, il y a d'autres créateurs sur Patreon, donc vous créer un compte veut dire contribuer à la vie de créateurs que vous appréciez, pas seulement Patrick. Voilà. D'abord Patrick, entendons-nous bien, hein, première étape, et on fait les choses dans l'ordre, et après, potentiellement, peut-être que vous allez en voir d'autres. patreon.com/rdvtech. Merci à vous tous et à
Patrick,
vous toutes.
Oui. Comment on va faire quand on aura tous des clés connectées qui font plus cling dans le bol? On te donne plus d'argent alors?
Quand vous débloquez votre téléphone. Alors là, quand vous
téléphones, ils seront directement dans nos cerveaux, Patrick.
Oui, bon, écoute, mais je serai dans vos cerveaux aussi. C'est inévitable, à moins que vous ne deveniez patriote. C'est très facile. Très simple, la solution. Parce que quand on est patriote, on a accès au flux privé dans lequel il n'y a pas cette petite promo au milieu, tu vois. Donc le « cling », Patrick, il est beaucoup moins présent. Je suis dans vos cerveaux. Et beaucoup moins présent aussi. Et d'ailleurs, je fais un petit after show pour parler des 25 ans de Google et de l'image que j'ai de cette boîte. C'est un tout petit truc de 5 minutes que je place donc pour les patriotes uniquement. À la fin de l'émission, c'est le petit after show.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, marketers. Want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Allez, on y va. Le reste de l'actu. Le reste de l'actu, un article assez intéressant qui sera dans la newsletter, qui explique de quelle manière de plus en plus de gens sont fatigués par les réseaux sociaux et l'aspect hyper professionnel des contenus des réseaux sociaux et du coup les quittent pour aller vers des réseaux privés et des messages privés plutôt que des Instagram où on a maintenant plus que des influenceurs et des influenceuses dont toutes les photos sont hyper travaillées, c'est que des trucs avec des partenariats avec des marques ou des trucs de marque directement. J'ai trouvé l'article assez intéressant. Et nous-mêmes, d'une certaine manière, ce développement de Discord qu'on a tous fait, je crois, s'inscrit dans cette tendance. Mais j'ai trouvé l'article assez intéressant. Je me demande si vous aussi, vous arrivez un petit peu, même en le faisant un petit peu, je crois que sur Nowtech, vous êtes un petit peu plus professionnel encore dans le contenu que vous diffusez sur les réseaux sociaux qu'il y a quelques années. Est-ce que vous en avez marre de voir des gens super beaux sur des fonds super beaux et du coup, vous vous dirigez vers d'autres choses? Moi, perso, je suis tout le temps sur Discord plutôt.
Bah, disons qu'il y a un truc, c'est que, en fait, quand tu crées un contenu où que ce soit, soit tu le crées vraiment que pour ta communauté, soit tu le fais pour attirer des nouvelles personnes. Donc effectivement, un contenu qui va être destiné à attirer un maximum de personnes, même hors de ta zone de chalandise, et je fais exprès d'employer un langage de supermarché avec la zone de chalandise, parce que c'est la réalité du métier, Là, oui, ton contenu va être très forgé pour être le plus lisse possible. Tu fais du McDo. McDo attire un maximum de gens. Le contenu en lui-même est décevant, mais il déplaît pas à une majorité de personnes. Ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, et d'ailleurs, Instagram est en train de s'adapter avec maintenant des flux plus réservés aux gens qui te suivent vraiment et tout ça, c'est une nouvelle espèce de contenu qui va être plus un contenu communautaire à des gens qui t'accordent plus de confiance, avec qui tu vas pouvoir aussi avoir un ton moins lisse et moins polissé
c'est exactement
dans la création
ça
de contenu.
Qu'ils changent,
voilà. Ouais. Donc, tu vois, Instagram s'adapte vite aussi. Il voit bien quand il commence à y avoir... Oui, c'est évident qu'aujourd'hui, c'est trop aseptisé, mais ça change déjà. Et ça commençait déjà à changer. Les plus hauts influenceurs, aujourd'hui, font un contenu à l'inverse de...
On commence à revenir vers le naturel.
La caméra. Et ce qui est plus drôle, c'est que c'est artificiellement naturel. Je vais faire exprès de me filmer comme une grosse patate et de tomber pendant mon truc pour ajouter du naturel. Mais t'as dit que tu rigoles, mais tu as des formations entières maintenant que ta vidéo même. Je donne un exemple et j'aime bien ce qu'il fait, donc c'est pas du tout un reproche, mais. Regarde Linguistae, qui est un YouTuber qui marche très bien sur Linguistae. Je n'arrive pas à le prononcer, je suis dyslexique. Il fait exprès de dégrader son image vidéo pour que presque revenir à nos vieilles webcams.
Ouais, c'est un contenu.
Oui, mais
enfin, c'est un style, tu vois, c'est un choix artistique.
Non, mais ça montre une tendance de fond. Mmh. Ça montre une tendance de fond. Pour être authentique aujourd'hui, ceux qui sont le plus sur le front du contenu, cherche à créer un contenu le plus authentique possible et par des détails, en fait.
Corben,
même
il
dans,
le fait
à faire des faux cuts.
Corben, il le fait naturellement depuis longtemps. J'ai trouvé un truc, là. C'est marrant.
C'est
regardez, vous faites comme ça. C'est cool, non
voilà.
Dans les petits détails, et là aussi, je le connais, donc je ne reproche pas, mais c'est juste pour illustrer. Simon Puech, qui marche très bien sur YouTube, maintenant, il boit des gorgées d'eau pendant qu'il parle, en tout cas dans sa dernière vidéo. Moi, ça m'a fait tilter.
Il a pris
le genre de truc qu'on ferait partir au cut.
Je me demande où ils ont trouvé ça. Hein
voilà, pour. On est autant.
Maintenant, ça m'a donné soif.
On se met tout savoir. Corben, où elle est ta bouteille?
Ouais. Tu m'as qu'à fier, carrément.
Très bien, très bien. Meta serait en train. Alors, attention, grande nouvelle, c'est une rumeur. On n'est pas sûr, mais. Meta serait en train de considérer la possibilité d'avoir des Facebook et Instagram payants pour offrir une parade aux, justement, lois DSA-DMA. Donc, ce vieux serpent de mer dont on parle depuis des décennies maintenant presque, pourrait voir le jour grâce au ou à cause du DSA-DMA. Je suis plutôt pour moi, mais du coup, ça serait une version payante sans pub. Et comme ça, vous avez une option pour ne pas avoir de... Ça ne serait pas imposé. Hein. Je pense qu'il y aurait toujours la version gratuite. Mais pour éviter les problèmes de collection de données, Corben, tu t'abonnes tout de suite à Instagram payant sans pub ?
Non. Je vais quasiment jamais sur Instagram.
Facebook, alors ?
Moi, ma vie, maintenant, elle est sur TikTok, les gars.
D'accord. C'est bon.
Il est monstrueux sur TikTok, Corben. Monstrueux.
Moi, je pense que ça serait marrant que ça donne ce résultat. Enfin, Facebook payant grâce au DMA. Ça serait cool. Moi, je m'abonne. Enfin, non. Pas
moi, Threads payant. Je pense que je quitte définitivement X et je vais sur un Threads payant, ne serait-ce que parce que c'est le début. Je verrai après, pourquoi pas.
Vous avez vu les annonces de Google qui a fait une démo de Duet AI pour Google Workspace. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais
non, j'ai pas vu.
C'est une IA qui vient dans notamment dans vos meetings et qui peut être dans un meeting à votre place, non seulement en tant que participant, mais aussi en tant qu'animateur. C'est-à-dire que vous lui dites, alors tu présentes ça, ça, ça et ça, tu expliques ça, ça, ça et ça, et il le fait pour vous. Et du coup, je peux imaginer, je ne sais plus si c'est l'article de Numérama ou de 9to5Google qui disait, imaginez les meetings où l'organisateur envoie son IA et les participants envoient leur IA aussi. C'est formidable. L'IA présente son truc, les IA le comprennent et vous font un rapport ensuite.
Je trouve que en même temps, si je me rappelle,
deux doigts d'inventer le mail. Hein.
Deux doigts d'inventer le mail, mais c'est exactement ça.
Et bien, après, il y a certaines réunions, je suis sûr qu'il en ressortirait des choses plus productives que des réunions avec des
gens. Oui, il y a des chances, ouais.
Ouais. C'est assez certain. La réunionnite, c'est un problème. C'est vraiment, je me demande, sociologiquement, ça doit être hyper intéressant à étudier ça. Pourquoi est-ce que dans les grosses boîtes, il y a tellement de réunions inutiles dont tout le monde, c'est pas tellement ça qui est intéressant, mais tout le monde sait qu'elles sont inutiles et pourtant on continue à en organiser des dizaines par semaine.
Alors imagine les réunions en présentiel quand on fait traverser toute la France et tout ça, tu vois, c'est encore mieux.
Ouais. Bah en fait, c'est très simple, hein, Patrick. La réunion te permet de, dans certaines situations, de pas faire grand chose. Mais par contre, dans un agenda, c'est le truc imbougeable et qui fait important.
Ah bah oui.
Donc en gros, tu as toute l'apparence d'être quelqu'un qui travaille et qui a des responsabilités quand tu as beaucoup de réunions. Or, dans les faits, ceux qui ont trop de réunions, ce n'est pas les plus productifs dans une entreprise, ça c'est clair.
$30 par utilisateur et par mois hein, pour Workspace pour entreprise chez Google.
Ah bah eux, ils ont trouvé comment...
Comment rendre des réunions productives. YouTube a, semble-t-il, une préoccupation avec les shorts, vous savez, les formats à la TikTok. Il semblerait que de plus en plus de... que beaucoup de gens regardent, ça c'est pas nouveau, hein, regardent beaucoup de shorts qui sont en train non seulement de prendre le temps de vision des contenus plus longs, mais sont également beaucoup moins monétisables. Et du coup, ça pose un problème à YouTube, qui voudrait que les gens restent longtemps sur la plateforme. Bon, ça, on peut rester longtemps en regardant plein de shorts, mais du coup, ce dont on se rend compte, c'est que les gens n'ont plus le temps de regarder une vidéo de 10 minutes pour comprendre un sujet. Ils préfèrent regarder un short de 47 secondes, et ils ont eu l'information principale qu'ils voulaient, où ils ont été amusés, distraits, mais c'est beaucoup moins monétisable, un short. Donc, est-ce que YouTube est en train de s'auto-avoir ? On ne sait pas. Mais c'est une préoccupation. Ce n'est pas qu'ils sont tous en train de paniquer, mais ils le notent.
Là, ils ont, bah, je sais pas, ils ont déjà réagi. En fait, ils vont permettre de linker des shorts avec des contenus longs ou de linker un short avec un autre short qui donne un pantalon. La blague a été faite. Si YouTube est en train de réagir à ça. En fait, les shorts ont un gros pouvoir de traction. Mais moi, je le dis en tant que YouTuber, il y a un vrai retour du format long, en tout cas chez nous.
Les clips de Twitch, quoi.
Ouais, avant, c'était vraiment le 8 minutes, c'était le sweet spot, 6-8 minutes pour les vidéos longues. Nous, nos dernières vidéos qui faisaient moins de 10 minutes, elles ont sous-performé. Les gens veulent plus un 10-15 minutes maintenant.
Ah oui.
Ça dépend des sujets, en fait. Ça dépend des sujets.
Ouais. Tant tu veux vraiment plonger dans l'explication du truc, si tu veux un truc short, tu vas vers un short. Enfin, un truc court, tu vas
en
vers
fait,
un short.
En fait, tout est... Ouais, tout, nous, tel qu'on le théorise chez Nowtech, c'est que, parce qu'on est pareil en tant que visionneur, si je viens investir du temps, je ne veux pas non plus perdre mon temps avec un contenu trop superficiel. Donc, si je viens sur YouTube maintenant... Moi, je sais que je ne lance jamais une vidéo qui fait moins de 10 minutes. Ouais. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je vais sur TikTok où je regarde des shorts. Mmh. Donc, je pense que ça va dans le sens de ce que veulent les gens et ça dépend des moments, quoi.
La question de la monétisation reste peut-être problématique pour YouTube. L'entrée en bourse d'ARM semblerait... inclure la prise de participation, comme on l'avait évoqué il y a la semaine dernière, je crois, de Apple, Nvidia, Alphabet, Intel, Samsung, etc., etc., AMD, etc., mais pour des montants qui iraient de 25 à 100 millions de dollars seulement, alors que la valeur boursière serait d'environ 50 milliards pour ARM. Je ne suis pas un expert de la bourse, mais ça me paraît peu quand même pour Apple qu'ils ne prennent que, ça va faire combien ? Genre 2% ARM. Je me suis dit, ils vont se partager le truc, ils vont chacun prendre 10%, quoi. En fait,
Non.
Même pas 2% max, quoi. Je suis surpris. Huawei.
C'est peut-être,
c'est peut-être juste pour avoir un œil dedans et avancer sur leur projet à côté. Hein.
C'est ça. Mais du coup, tu as un œil dedans, mais tu n'as pas de contrôle du tout avec une partie.
Ouais, mais il faut aussi voir un truc. Je vais donner une image. Si avec tous tes amis néanmoins compétiteurs, tout le monde met ses gros bazookas sur la table, il y a un risque que tout le monde se tire dessus aussi. Là, en mettant juste un petit couteau sur la table, c'est comme un jeu de poker. Hein. Si tu mets trop, tu dévoiles ton jeu. Donc oui, là, on est dans des grosses mécaniques boursières, en fait.
Ouais,
2%,
peut-être
c'est énorme, en fait.
Tout le monde n'a pas forcément 4 milliards à mettre dans la mise en bourse de ARM. Donc, tout le monde est sage et gentil et ils disent « Ok, on va mettre un petit peu. » Comme ça, tout le monde peut participer. C'est peut-être,
Et puis, c'est surtout, si tu mets tes 4 milliards, tu dévoiles ton jeu à tes adversaires. Tu dis « Je mise gros sur cette technologie.
» Donc, enfin,
tu dévoiles ton jeu.
Apple, par exemple, il n'y a pas de doute sur le fait que tout est en train de passer sur ARM. Donc, c'est pas très mystérieux. Ils tablent beaucoup dessus. Donc, bon, bref. Et même Intel... Ouais. Investirez là-dedans. Le Fairphone 5, et il continue, les amis de Fairphone. Un téléphone donc équitable, durable, qui continue à évoluer dans ce sens-là. On l'avait un petit peu critiqué ces derniers temps, parce que la promesse est difficile à tenir pour tout un tas de raisons, de faire un téléphone qui soit durable vraiment sur le long terme, mais il continue à s'améliorer. Donc, continuez à regarder du côté du Fairphone, surtout que, si vous voulez changer de téléphone, surtout que j'ai deux ou trois petites nouvelles en plus. Magic Leap 1, qui a été mis en vente en 2018, vous vous souvenez, c'est ce casque soi-disant révolutionnaire de réalité augmentée, ils vont arrêter le support du Magic Leap 1. Ils ont un 2 hein, qui est en exploitation, mais ils vont arrêter le support du 1 au 31 décembre 2024. Et à ce moment-là, ce n'est pas qu'ils vont arrêter de faire des mises à jour, c'est que l'appareil ne fonctionnera plus du tout. Vous pouvez le jeter à la poubelle. Alors, ils n'en ont vendu que quelques milliers. Ils espéraient en vendre genre 1 million, ils en ont vendu 5 000. Donc bon, voilà, les gens qui l'ont acheté en feront le deuil. Mais c'est quand même un petit peu, aujourd'hui, ça fait un peu mal de se dire, l'appareil, il sera inutilisable, quoi. Donc, ça devient une pièce
C'est abusé.
À côté de ça...
Là, pour le coup, il devrait y avoir une loi qui oblige aux entreprises qui abandonnent un produit à les mettre dans le domaine public. Il devrait y avoir une obligation, en tout cas, open source.
Que quelqu'un puisse reprendre derrière.
Que des gens, même s'ils sont que 1000, puissent avoir la possibilité de continuer à faire durer le matériel.
Je vais vous donner un exemple récent. C'est Vanmoof qui faisait des vélos. Qui justement, là, ont fait faillite, c'est fini. Les serveurs vont fermer, ce qui signifie que l'application sera plus mise à jour et on pourra plus débloquer les vélos. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez plus rouler avec. Cowboy, le concurrent, a créé une application qui permet de sauvegarder sa clé dans son smartphone et qui permet quand même de débloquer son téléphone et de pouvoir l'utiliser. Il y a même des développeurs indépendants qui ont lancé des applications qui permettent d'exploiter le vélo, etc. Parce qu'ils ont libéré le truc. Mais imaginez le scandale si un vélo à 3000 balles, vous ne pouvez plus l'utiliser parce que la société fait faillite et qu'en fait... les serveurs ne fonctionnent plus. En fait, on parle d'un vélo. Littéralement, un truc avec des pédales et deux roues, quoi. Donc,
il est beau le futur, ma bonne dame.
Voilà, mais qu'on pourrait continuer à maintenir en allant dans une boutique, etc., pour changer les pédales, les pneus, les freins et tout ce qu'on veut, quoi. Mais là, en fait, ça va un peu loin. Et typiquement, le consommateur n'est pas protégé. C'est-à-dire que si un concurrent n'avait pas décidé de faire quelque chose pour... vous perdiez votre vélo en fait. Voilà.
C'est assez. Oui, je pense que c'est le genre de choses. Ouais. Je pense que c'est le genre de choses où on a l'expérience maintenant de cette mésaventure et on se dit on va peut-être faire les choses différemment. Tu vois, les clients par exemple qui vont se renseigner sur les vélos électriques à acheter seront peut-être avertis de ce problème potentiel qu'on avait. Évidemment que certains avaient vu venir, mais on n'avait pas eu la catastrophe. Comme le
Je suis concerné, j'ai un Cowboy 4 et je suis concerné par le problème. C'est-à-dire que si demain Cowboy vient à disparaître, j'espère qu'ils libéreront
le logiciel.
Justement,
pour le prochain, est-ce que tu...
Ouais, mais le prochain, Patrick, aucune... Ouais, mais
c'est un problème assez récurrent avec.
Pardon.
C'est un problème assez récurrent avec le. Dès que tu as du matériel avec une appli de base, voilà, il faut que l'appli ait plus mise à jour dès qu'il y a un changement d'OS et pété. Enfin, c'est. Voilà.
Bah moi j'ai. Mais tu vois, j'ai une balance qui, une balance WeThings connectée que j'ai achetée il y a quoi 10 ans ou je sais plus quand, enfin très longtemps. Et j'ai essayé de la reconnecter au réseau Wi-Fi, j'ai pas réussi. Je sais pas pourquoi. Alors, j'ai pas cherché pendant plus d'une demi-heure.
Ouais, mais... Non, mais.
Je dois avoir la même,
mais elle marche.
Ouais, bah alors il faudrait que je réessaye. Peut-être qu'il y a eu un souci, mais là j'ai pas réussi.
Alors moi,
par contre, elle marche. Elle marche en tant que balance. C'est juste que je peux pas bénéficier.
C'est peut-être simplement un problème de réseau. Ouais, 2.4 au lieu de 5.
2.4.
Les objets de connexion 2.4, mais. Ou peut-être bref, on s'en fout, c'est pas le support technique
bon, mais on en revient à ce que je disais, il faut vraiment une loi qui oblige, si ta société fait faillite et que tu dois abandonner la partie software qui fait tourner ton hardware, il y a une obligation à mettre le code source à disposition. Après, que des développeurs s'en emparent ou une communauté s'en empare, c'est un autre problème, mais au moins qu'une boîte ne puisse pas fermer comme ça, en laissant tout le monde sur le carreau. Parce que, bah, comme tu dis, une balance, dans 10 ans, d'un point de vue hardware, elle marche encore parfaitement. Donc là, on est en train de générer des ordures inutilement, quoi.
Bon, la balance fonctionne, hein, encore une fois. C'est juste qu'elle ne peut pas envoyer les données à Internet et donc à mon app, etc. Mais la balance elle-même, elle fonctionne.
Mais imagine si elle ne te pesait pas parce qu'elle n'arrivait pas à se connecter au Wi-Fi.
Bah, ça, c'est le van move. C'est ça, serveur. Exactement. Ouais.
Voilà.
En attendant, Google a visiblement... Alors j'avoue que j'ai lu l'article en diagonale, c'est la fin de l'émission, mais c'est assez clair. Ils ont lancé le Pixel Pass il y a un peu moins de 2 ans, qui était un abonnement qui vous donnait accès à un téléphone et un renouvellement de téléphone tous les 2 ans en continuant à payer l'abonnement à, je ne sais plus combien c'était, 30, 40, 50 dollars. Sauf qu'il tue le Pixel Pass avant la date des 2 ans. Et donc, ils ne vont pas vous filer votre prochain téléphone gratuitement. Mais quel est le fuck ? C'est vraiment... Je ne sais pas, peut-être que là encore, il n'y avait que quelques milliers d'abonnés et que donc ça ne sert à rien. Mais...
Ouais, et ils te laissent le téléphone en échange. Et si, in fine, tu n'as pas payé le prix fort, tu vois, pour, suite à l'abonnement sur 2 ans... Ça devait être rentable quand même, tu vois, l'idée.
Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que les clients n'en ressortent pas désavantagés. Mais c'est quand même, tu sais, dans la catégorie de les trucs que Google a tués, c'est encore...
Là, ils font fort.
Ils font fort, là. On fait un pass.
Mais aux États-Unis, c'est... Parce que j'ai lu aussi un article sur ce truc-là. En fait, aux États-Unis, leur morale s'arrête au nombre de personnes qui peuvent leur faire une class action.
Oui,
c'est-à-dire que là, Google a dit « Ok, il y a 1000 clampins qui ont pris ce truc, les naïfs. Même si on ferme le truc, même s'il nous faut une class action, ça ne va pas nous coûter des milliards, let's go. »
Ouais.
On a moins ça en Europe, parce que c'est dans les paradoxes, mais nous, on fait moins de class action, mais par contre, un consommateur isolé peut faire très mal aussi si jamais il s'en sort qu'il a des très bons avocats et qu'il attaque très bien.
On a des associations de défense de consommateurs qui aussi, sont très efficaces, etc. Bon, et c'est pas non plus la fin du monde, hein, entendons-nous. C'est pas un scandale qui va nous pousser à manifester dans la rue. Mais c'est rigolo et notable. D'ailleurs, il y aura un nouveau Pixel qui sera dévoilé en octobre. Ils ont donné la date du 4 octobre. Donc, soyez au rendez-vous. Et Apple, comme d'habitude, et Apple a confirmé la date du 12 septembre, donc la semaine prochaine, juste après l'enregistrement de l'émission, merci beaucoup à eux, pour la conférence de rentrée où ils dévoileront les iPhone 15 et 15 Pro et Apple Watch série 9, etc. Donc, on sera au rendez-vous pour en parler, bien sûr. Il y a aussi Microsoft qui veut parler de OneDrive. Je ne sais plus quand, c'est en octobre aussi, je crois. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé pour OneDrive ? Genre...
Je ne sais pas.
Ils arrêtent.
Des fiches
qui marchent.
C'est fini. Alors, merci, chers développeurs et chers clients, d'être réunis. Bon, tu sais, si Google peut annuler son Pixel Pass avant le premier renouvellement.
Bah ouais.
Et voilà, je crois que c'était la dernière information capitale de cet épisode. Apple sera bien présent, premier sur les scoops. Apple fera bien sa conférence de rentrée et on aura droit donc à des téléphones. C'est fou, hein ? Incroyable.
Incroyable. Et des montres, sans doute.
Et des montres. Voilà. Peut-être pas des iPads, ça sort en octobre.
Peut-être, oula, ça va pas trop vite.
Mais peut-être que OneDrive, ils vont parler de Copilot, hein, tu sais.
Encore de l'IA.
Ouais, tu vois, qui t'aiderait à classer tes fichiers, à faire des recherches.
Il va jeter tout seul tes fichiers à croiser.
Mieux que ça encore, à entraîner Copilot sur tes données. Et tu peux ensuite lui poser des questions, etc. Tu vois, parce que Google avait fait cette démonstration avec Google Docs.
C'est ça.
Donc, peut-être que c'est ça, en fait, le sujet.
Possible. Eh bien, écoute, on verra au moment de l'annonce. Merci à tous les trois d'avoir été présents, d'avoir fait bénéficier cette émission de votre expertise et de votre beauté, qui est un attrait assez non négligeable pour l'émission. Même en audio, ça se ressent dans les oreilles. Si on veut plus, justement,
j'adore
de beauté,
les phrases de Patrick.
Ça se sent dans les oreilles, tout à fait.
On sait quand elles commencent, tes phrases, on ne sait pas où elles s'arrêtent. Hein.
Ça fait toujours très peur.
15 ans de podcast. Corben, si on veut se faire peur sur TikTok, où est-ce qu'on va ?
Ah bah sur Corben Info, tout collé, voilà, sur TikTok. Et puis sur Twitch, évidemment, Corben FR. Voilà. Et le blog Corben Info, pardon. Vous trouverez.
Vous trouverez. Corben, il est partout. Cédric, où te trouve-t-on ?
Oh, moi, j'ai plein de projets en cours. Du coup, je vais juste donner mon X pour le moment. Donc, ça sera Cédric de Lucas avec le chiffre 2, par contre, dans le...
Attends, mes projets en cours. Cédric 2. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing ?
Pas trop.
Ah, zut.
Non, je peux pas encore.
Bon, c'est des
parce que j'ai des partenariats et des trucs.
Ça sent le OnlyFans.
Ah là, le OnlyFans.
Je ne peux pas dire.
Il ne peut rien dire. Très bien. Merci. Et le lien vers le compte X sera dans les notes de l'émission, évidemment. Jérôme, ton beau setup est-il visible ailleurs et dans d'autres endroits ?
Bah nous, pour faire simple, sur YouTube, c'est Nowtech. Partout ailleurs, c'est Nowtech Team. Ça y est, on a un peu normalisé les choses.
Ah, vous avez uniformisé.
Donc, sur Instagram, sur TikTok, sur X, partout, c'est Nowtech Team. Parce que Nowtech était déjà squatté partout. Il n'y a que sur YouTube où on est Nowtech. Donc, vous pouvez nous suivre partout. On devrait arriver un peu plus en force, effectivement, sur les formats courts qu'on ne l'était. On diminue un tout petit peu la voilure sur les lives. Non, on en est loin. Le problème, c'est de faire un live par jour, des formats courts, des vidéos YouTube, on n'y arrivait pas. Embaucher, je ne peux pas pour l'instant plus. Donc, on va réduire un tout petit peu la voilure sur les lives. Donc, notre émission du matin, il n'y en aura plus le lundi matin. Enfin bon, je ne vais pas vous
expliquer. Histoire de pouvoir se réveiller un peu tranquillement quand même.
Non, histoire de pouvoir travailler un format court. Voilà, j'ai tout compris.
Très bien, Nowtech et Nowtech Team, partout ailleurs que sur YouTube. Merci beaucoup à tous les trois. Pour ma part, c'est Note Patrick, vous le savez, sur à peu près toutes les plateformes, je crois, oui, quasiment. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, Note Patrick. YouTube, les replays sont sur Note Patrick Podcasts. Et vous avez aussi le Discord, qui est une communauté absolument formidable, incroyable, merveilleuse, où on passe de bons moments. Donc, si vous voulez un endroit sympathique sur Internet, le Discord de la communauté NotePatrick est là pour vous accueillir. Et les liens vers tout ça sont bien sûr dans les notes de l'émission, mais aussi sur notepatrick.com. J'ai un endroit qui, je l'espère, ne sera pas condamné par je ne sais quelle décision arbitraire automatisée par des robots. Notepatrick.com, c'est facile. Et bien sûr, les notes de l'émission. Et oui, n'oubliez pas non plus le Patreon. J'ai oublié de dire patreon.com/rdvtech. Je suis dans vos oreilles. Comment je disais tout à l'heure, les patriotes vont pas comprendre la référence à la partie. Tu vois, c'est du content
en
entertaining.
En fait, t'es l'absolu de Baldur's Gate 3. T'es le verre qu'on nous met dans l'œil là dans Baldur's Gate 3 en fait. Hein ?
Exactement.
Ouais, je t'ai reconnu.
Mais vous ne vous transformez pas en créature chthonienne de Cthulhu. Tu vois ? Parce que moi, je suis un gentil verre. C'est juste que je vous donne des informations tech et gaming directement dans le cerveau. C'est un bon deal, je pense. Tout ça pour me livrer une petite partie de votre matière grise, pour que je puisse me mettre dans un petit cocon, là, comme ça. C'est pas mal.
Bon. En mieux, maintenant, Jérôme, quand il disait tout à l'heure, on ne sait pas où tu vas aller, ça fait peur. Quoi.
Ah ben, ouais, ça fait pas peur, quand même.
Hey, c'est pas moi, c'est Jérôme, là. C'est Jérôme qui m'a dit... Ouais. Hein ? Bon. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans une semaine. Je vous fais des bisous à tous.
À plus.
Ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.